Péroua, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 5 décembre 2017. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné l'attaque qui a coûté la vie à un casque bleu mauritanien hier à Bria, en République centrafricaine.
En Guinée, des milliers de collégiens et lycéens sont descendus hier dans la rue à Conakry pour réclamer le retour en classe des enseignants en grève.
La Suisse va restituer au Nigeria environ 321 millions de dollars détournés par l'ancien dictateur Sani Abacha.
Ici aux États-Unis, la Cour suprême a autorisé l'application dans sa totalité du dernier décret migratoire du président Donald Trump.
Rare visite en Corée du Nord du secrétaire général adjoint de l'ONU, l'Américain Jeffrey Feltman.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné l'attaque qui a coûté la vie à un casque bleu mauritanien de la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique. L'attaque, qui a également fait 3 blessés, a été perpétrée par des anti-balaka hier à Bria, dans l'est de la République centrafricaine. Des précisions avec Jean-Roger Bion.
Le chef de l'ONU a exhorté les autorités centrafricaines à enquêter rapidement sur cet incident et traduit les auteurs en justice, rappelant que les attaques contre les casques bleus de l'ONU peuvent constituer un crime de guerre. L'attaque a eu lieu à un poste de contrôle des casques bleus de la MINUSCA près d'un site pour personnes déplacées dans la ville de Bria. Cela porte à 14 le nombre de casques bleus tués dans des attaques ciblées en République centrafricaine depuis janvier 2017. Antonio Guterres a réaffirmé la détermination de la MINUSCA à protéger les civils et à stabiliser la République centrafricaine. Il exhorte toutes les parties à mettre fin à la violence et à travailler ensemble pour amener la paix et la stabilité dans le pays.
En Guinée, des milliers de collégiens et lycéens sont descendus hier dans la rue à Conakry pour réclamer le retour en classe des enseignants en grève depuis plusieurs semaines, alors que les syndicats menacent de déclencher une grève générale sur l'ensemble du territoire. Morgane Guériac.
Nous voulons nos profs ou sans nos profs, pas de cours, scandaient les élèves. Dans les quartiers de Hamdalaï et Bambeto, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène. Lors de la manifestation, des élèves du secondaire ont tenté d'approcher le palais présidentiel et les bureaux du Premier ministre, où ils ont été refoulés par les forces de l'ordre. Lancée le 13 novembre, la grève des enseignants a déjà fait 2 victimes, des adolescents de 15 et 17 ans tués par balles lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. De son côté, le leader syndicaliste Aboubakar Souma, qui vit caché depuis le début de la grève, a démenti avoir appelé à une quelconque reprise du travail. Le président Alpha Condé a interdit aux médias de relayer ses messages sous peine de fermeture.
La Suisse a annoncé hier soir qu'elle allait restituer au Nigeria environ 321 millions de dollars détournés par l'ancien dictateur Sani Abacha, et ce conformément à un accord passé avec le Nigeria et la Banque mondiale. Sani Abacha, au pouvoir de 1993 à sa mort en 1998, est accusé d'avoir détourné au total 2,2 milliards de dollars de la Banque centrale nigériane, ce que les États-Unis avaient qualifié d'acte effronté de kleptocratie en 1994.
3 migrants marocains, dont une femme, sont morts noyés et 40 autres ont été secourus après le naufrage d'une embarcation au large de Larache, dans le nord, ont indiqué hier les autorités marocaines. Ce naufrage intervient quelques jours après la découverte des corps de 8 migrants subsahariens sur des plages proches de Tanger, noyés alors qu'ils tentaient de rejoindre illégalement l'Espagne en traversant la mer Méditerranée en bateau, selon la presse locale.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, dans une victoire pour le président Donald Trump, la Cour suprême a décidé hier d'autoriser l'application dans sa totalité du dernier décret migratoire, pendant que se poursuit la bataille judiciaire en première instance. 7 juges ont voté en faveur et 2 contre. Aucune raison n'a été donnée pour cette décision. Le décret migratoire, dont c'était la 3e version, interdit à la plupart des ressortissants de 8 pays Tchad, Iran, Libye, Corée du Nord, Somalie, Syrie, Venezuela et Yémen d'entrer aux États-Unis. 6 d'entre eux sont des pays à majorité musulmane. Des tribunaux du Maryland et d'Hawaï avaient bloqué l'application de ce décret. La décision de la Cour suprême rejette essentiellement un compromis qui créait des exceptions pour les étrangers pouvant démontrer une relation authentique avec quelqu'un aux États-Unis. Et cela incluait les grands-parents, les beaux-frères, belles-sœurs, tantes, oncles et cousins.
Donald Trump doit se prononcer sous peu sur l'épineux statut de Jérusalem. Le monde musulman l'a mis en garde contre tout choix susceptible de ruiner les espoirs de relance du processus de paix. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Catastrophe, escalade, violence. Les alliés des Palestiniens ont multiplié hier les avertissements. Mahmoud Abbas s'est entretenu avec ses homologues français Emmanuel Macron et turc Recep Tayyip Erdogan. L'Organisation de la coopération islamique, OCI, appelle ses 57 membres à tenir un sommet si Donald Trump reconnaît Jérusalem comme capitale de l'État hébreu. Les islamistes du Hamas menacent d'une nouvelle intifada. Une loi adoptée en 1995 par le Congrès permet de déménager l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Depuis, les présidents successifs ont choisi tous les 6 mois de repousser son application. Donald Trump, malgré sa promesse de campagne, a fini par se résoudre à attendre pour, selon ses termes, donner une chance à la paix. Même si rien de définitif n'est calé, le milliardaire républicain doit annoncer son choix ce mardi ou demain mercredi. Pour Avigdor Lieberman, ministre israélien de la Défense, c'est une occasion historique de réparer une injustice. Il a assuré qu'Israël saurait faire face à toute violence qu'un tel transfert pourrait provoquer.
Au Yémen, mort de l'ancien président Ali Abdallah Saleh, qui avait dirigé le président pendant 33 ans, il a été tué hier par des rebelles houthis, quelques jours seulement après la rupture de l'alliance entre les deux camps, à l'origine d'affrontements meurtriers dans la capitale Sanaa. Au centre de la pire crise humanitaire au monde, selon l'ONU, la guerre au Yémen avive les tensions autour de la rivalité entre l'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite, accusé par Riyad de soutenir militairement les houthis, ce que Téhéran réclame.
Le secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires politiques, l'américain Jeffrey Feltman, effectue de mardi à vendredi une visite officielle en Corée du Nord. C'est ce qu'a annoncé hier le porte-parole des Nations Unies, Stéphane Dujarric. 6 jours avant cette visite, Pyongyang avait annoncé le tir d'un missile balistique intercontinental capable de frapper, selon les Nord-Coréens, n'importe quel site du territoire continental des États-Unis.
Ici à Washington, les leaders démocrates du Congrès ont accepté hier de rencontrer le président Donald Trump jeudi pour négocier un accord budgétaire et politique. Ils avaient déjà boycotté un précédent rendez-vous. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Chuck Schumer, chef de l'opposition démocrate du Sénat, et Nancy Pelosi, son homologue à la Chambre des représentants, disent espérer que Donald Trump les rencontrera dans un esprit ouvert. Les deux leaders démocrates devaient se rendre à la Maison-Blanche mardi dernier, mais ils avaient annulé leur venue après que le président eut déclaré qu'il ne croyait pas qu'un compromis puisse être trouvé avec eux. Cette rencontre jeudi prochain va inclure les chefs républicains de la Chambre et du Sénat, Paul Ryan et Mitch McConnell. Elle vise à sceller un accord sur les grands sujets comme le budget, l'immigration, l'aide financière pour les récentes catastrophes naturelles et le financement d'un programme d'assurance maladie pour les enfants. Ce rendez-vous aura lieu à la veille de l'expiration du financement de l'État fédéral le 8 décembre. Le Congrès doit adopter une extension des crédits fédéraux pour 2 semaines afin d'éviter un shutdown, une fermeture des administrations fédérales. L'opposition démocrate menace d'utiliser son pouvoir de blocage au Sénat pour empêcher l'adoption de cette extension du budget de l'État fédéral.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Yacouba Ouédraogo.
Lancement hier à Abidjan des travaux de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou. Long de 1260 km, les travaux vont coûter 260 milliards de francs CFA et durer près de 8 ans. Ce chemin de fer vise à augmenter le trafic entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Le Gabon bénéficie d'un appui budgétaire de 222 millions d'euros sur 2 ans. Ce prêt servira à l'appurement des arriérés intérieurs et extérieurs. Il concerne également la mise en œuvre des réformes des finances publiques. La première tranche de 75 millions sera déboursée avant la fin de l'année. Exim Bank finance la construction d'une usine de production d'eau potable de 300 000 mètres cubes par jour sur le fleuve Sanaga dans le centre du Cameroun. Les travaux seront réalisés en 36 mois. Le projet coûtera un peu plus de 26 milliards de francs CFA. Un projet d'adduction d'eau au Rwanda, l'un des tout premiers en Afrique subsaharienne. D'un coût total de près de 70 millions de dollars, la BAD va donner 18 millions et le Fonds africain pour les infrastructures déboursera près de 22 millions. Le reste du financement viendra de Metito, maître d'ouvrage, une société japonaise leader mondial dans la gestion des adductions d'eau. Dans un avenir très proche, le Rwanda veut rendre l'eau accessible pour l'ensemble des 12,5 millions d'habitants.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Voilà, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Cameroun n'a plus de sélectionneur.
Hugo Brousse a été limogé hier par la Fédération camerounaise de football. Il paie la non-qualification du champion d'Afrique en titre pour la Coupe du Monde 2018 en Russie et surtout ses mauvaises relations avec les dirigeants du foot camerounais. Les détails à Yaoundé avec le correspondant de VOA Afrique, Emmanuel Jules-Ntap.
La décision de limoger Hugo Brousse sera sans doute entérinée ce mardi à Yaoundé à l'issue d'une ultime rencontre entre le ministre des Sports, Bidoum Pat, et les membres du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Les deux parties n'ont pu se rencontrer hier, comme initialement annoncé. Seuls les proches collaborateurs du patron des sports ont tenu une réunion en interne en rapport avec la fin du contrat de Hugo Brousse, décidé par le comité de normalisation de la FECAFOOT. Mais l'on imagine mal le ministre des Sports jouer une autre partition avec le limogeage de Hugo Brousse du Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Jules-Ntap, VOA Afrique.
La Ligue des champions en Europe.
Dans le groupe A, le FC Bâle doit absolument l'emporter sur la pelouse du Benfica, déjà éliminé. Manchester United accueille le CSKA Moscou, qui n'a pas le droit au faux pas. Dans le groupe B, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich sont déjà qualifiés pour le tour suivant, mais le match à l'Allianz Arena permettra aux Bavarois de montrer qu'ils peuvent toujours briller sur la scène européenne face au trio magique Neymar, Mbappé et Cavani. Dans l'autre match du groupe, le Celtic Glasgow accueille Anderlecht, l'équipe belge qui n'a marqué aucun point depuis le début de cette phase de poule. Dans le groupe C, Chelsea, le leader, accueille l'Atlético Madrid qui doit l'emporter et espérer que l'AS Rome ne batte pas le petit poussé Karabakh. C'est autrement dit une mission impossible. Dans le groupe D, la Juventus Turin doit s'imposer en Grèce chez l'Olympiakos, le FC Barcelone déjà qualifié face au Sporting Portugal.
On reparle du tirage au sort de la Coupe du Monde 2018 en Russie.
Une réaction ce matin, celle de Gernot Rohr, le sélectionneur des Super Eagles, revient sur ce tirage complexe pour le Nigeria qui fera face notamment au vice-champion du monde argentin, à la Croatie et à l'Islande. On écoute sur VOA Afrique Gernot Rohr.
C'est un tirage difficile pour le Nigeria parce que l'Argentine est numéro 4 mondial, vice-champion du monde. En plus, la Croatie a l'habitude également de faire des bons tournois, que ce soit des championnats d'Europe ou des championnats du monde avec de très grands joueurs. Et l'Islande, on le sait, a une équipe très solide, supportée par des fans extraordinaires et par des gens qui sont acquis à leur cause. Donc ça ne va pas être simple. Le Nigeria, qui est quatrième chapeau, ne sera pas favori. Mais on est des outsiders ambitieux et on a envie, malgré tout, de sortir de ce groupe.
Gernot Rohr, le sélectionneur des Super Eagles, invité de l'émission Sporama hier sur VOA Afrique. Allez, Idrissa, avec vous, quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Orlando Magic et Charlotte Hornets, 94-104. New York Knicks et Indiana Pacers 97-115, Phoenix Suns et Philadelphia Sixers 115-101, Brooklyn Nets et Atlanta Hawks 110-90, Milwaukee Bucks et Boston Celtics 100-111, Cleveland Cavaliers et Chicago Bulls 113-91.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. voaafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Nous vous le disions hier, Human Rights Watch a accusé des officiers supérieurs des forces de sécurité en République démocratique du Congo d'avoir mobilisé plus de 200 anciens combattants rebelles du M23 venant des pays voisins pour étouffer en décembre 2016 les manifestations contre le président Joseph Kabila. Pour en savoir plus, Solange Niamoulissa a contacté Human Rights Watch et aussi, pour leur réaction, les autorités congolaises. Tout d'abord, Aida Sawyer, directrice pour l'Afrique centrale à Human Rights Watch.
C'est une recherche que Human Rights Watch a menée depuis 11 mois et nous avons documenté comment des officiers supérieurs des forces de sécurité congolaises ont recruté des anciens combattants rebelles de M23 dans les pays voisins, dont Ouganda et au Rwanda, où ils étaient basés depuis la défaite de leur rébellion en fin 2013. Et ces combattants M23 ont été recrutés et puis déployés au Congo et précisément à Kinshasa, la capitale, et à Lubumbashi et à Goma. Et ils ont reçu des ordres explicites de réprimer et étouffer les manifestations pacifiques et toute autre menace au pouvoir du président Joseph Kabila autour du 19 décembre 2016, qui était la fin du deuxième et dernier mandat de Kabila autorisé par la Constitution.
Et pourquoi révéler ces informations un an après, alors que vous étiez au courant depuis décembre 2016?
C'est un travail qui nous a pris du temps, mais on pense que c'est très pertinent aujourd'hui parce que nous approchons vers la fin de l'année 2017. Les élections sont encore très loin et il n'y a pas de clarté sur si et quand Kabila va quitter le pouvoir. Il y a des manifestations prévues dans les semaines à venir et nous espérons que les autorités, les forces de sécurité ne vont pas répéter les mêmes pratiques et le même type de répression contre les manifestants et aussi qu'ils ne répètent pas les mêmes pratiques de recruter des membres d'un groupe rebelle abusif pour participer dans cette répression.
Aida Sawyer, directrice pour l'Afrique centrale à Human Rights Watch. Maintenant, la réaction des autorités congolaises. Jointe à Kinshasa, Marie-Ange Mouchobekwa, ministre des Droits humains en RDC.
Ce n'est pas vrai. Dans quel but le gouvernement congolais aurait recruté des rebelles pour maintenir l'ordre public? Que les forces de l'ordre de la République démocratique du Congo avaient été débordées au point de ne plus pouvoir assurer l'ordre public et que les forces armées de la République démocratique du Congo étaient incapables de prêter main forte à la police nationale congolaise pour qu'on ait recruté des rebelles. Le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a aucun intérêt à recruter les rebelles du M23 pour assurer l'ordre public. Human Rights Watch ne sait pas d'où est venue attirer toutes ces informations qui ne sont pas vraies. Ce n'est pas logique, c'est tout simplement ridicule, madame.
C'était Marie-Ange Mouchobekwa, ministre des Droits humains en République démocratique du Congo.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Au Tchad, les militaires partis à la retraite entre 2011 et 2012 se plaignent de leur sort. Ils exigent le paiement d'indemnités de congé et ont accordé un délai de 2 semaines aux autorités pour régler la situation. Le point avec André Kodmadjingar.
Le paiement des 3 mois de congé libéral, qui est un droit pour un soldat susceptible d'être dégagé des obligations militaires, aurait permis à ces retraités de constituer leur dossier pour être reversé à la Caisse nationale des retraités du Tchad. Voilà 7 ans environ que ces militaires officiellement mis à la retraite ne sont pas déclarés à la Caisse pour bénéficier de la pension comme les autres fonctionnaires civils et militaires. Certains d'entre eux ont des arriérés de primes d'accompagnement. Coup de gueule de l'un des délégués des militaires retraités, Blagué Jean Gaba.
Notre droit, le congé libérable. Mais depuis 2011, le gouvernement n'est même pas nous donné le congé libérable dans 3 mois de salaire. Parce que depuis 82, l'armée tchadienne souffre. Si c'est un colonel, il gagne 30 000. Si c'est un capitaine, il gagne 30 000. Nous, militaires, on appartient en retraite, nous, on n'a pas de valeur. Même nos parents, au conseil de famille, on ne te demande même pas. Parce qu'on n'a rien. Il faut au gouvernement nous trouver une solution. Un point, un trait. Nous, on n'a pas besoin de pouvoir. On a pris l'arme, on a combattu. Jusqu'au Jaïr, jusqu'au Centrafrique, jusqu'au Rwanda. Tout inédit, on a fini avec la guerre. On doit rentrer dans notre droit.
Un délai de 2 semaines est accordé au gouvernement afin de décanter la situation. Si rien n'est fait jusqu'à lundi prochain, ils se verront dans l'obligation d'engager les actions légales pour entrer dans leurs droits. Blagué Jean Gaba.
La tolérance et la longueur de temps. On les laisse de temps pendant 2 semaines. On a mettre notre vie en danger pour combattre toute la rébellion au Tchad. Dès qu'on ne trouve pas notre droit, on ne le pardonne pas. Et mes enfants n'ont pas même d'école. Le dossier que j'ai fait, j'ai 1 800 000 arriérés. Et mon retour de congé libérable, je n'ai pas encore trouvé. Mais je suis en crise. Comment je peux vivre avec mes enfants?
Un général de l'armée à la retraite qui requiert l'anonymat trouve légitime la revendication de ses ex-compagnons d'armes. Il informe par ailleurs que même les généraux à la retraite, une soixantaine, refusent de toucher leur salaire depuis 3 mois parce que leurs salaires ont été revus en baisse.
Tous les généraux, sauf ceux qui peut-être en exercice, tous les généraux actuellement, ils ont refusé de prendre leur argent. Aujourd'hui, les fagots, là, coûtent comme le monde entier, les généraux ne sont jamais alignés à la caisse qui sont à la retraite. Le problème pour l'armée reste entier. Hein. Vraiment, les gens souffrent. Il y a des gens là. Aujourd'hui, il n'est tout même pas mal, carrément.
Les responsables de l'Office tchadien des anciens combattants et victimes de guerre, une institution placée sous la tutelle du ministère de la Défense, souhaitent ne pas se prononcer sur cette question, car ils n'ont pas pris connaissance du préavis lancé par les militaires retraités. André Koduma Dingar Djamena, VOA Afrique.
VOA Afrique Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Mali, l'ancien ministre et général Moussa Cinco Koulibaly a fait acte de candidature pour les élections présidentielles prévues en 2018. Ce haut gradé de l'armée malienne a démissionné de l'institution militaire pour se lancer dans la course. Notre correspondant Kassim Traoré l'a rencontré pour discuter des raisons de sa démission.
Ma démission est motivée par mon souci de pouvoir contribuer à trouver des solutions aux différents défis auxquels le pays fait face. Actuellement, je m'occupe essentiellement des questions de sécurité, de gouvernance et de paix. Mais je pense qu'avec l'expérience que j'ai eue, en particulier au ministère de l'administration territoriale, je pourrais aussi contribuer aux questions électorales, questions d'association de partis politiques, etc. Donc, j'aimerais me donner les moyens de pouvoir faire ces activités en n'étant pas limité par les réserves imposées par la qualité de militaire.
Sur la scène politique, est-ce que vous avez une préférence entre l'opposition et la majorité?
Je vais forcément essayer de mettre à disposition ma petite expérience que j'ai eue au ministère de l'administration territoriale, mais je ne vais pas me limiter uniquement à ça. Je suis disponible pour toute activité, toute contribution dans tous les domaines, pourvu que ça puisse apporter une contribution positive à la résolution de la crise que nous vivons actuellement.
Est-ce que vous êtes seul dans cette mouvance ou vous êtes avec vos anciens camarades dont certains sont en détention actuellement?
Je suis avec tous les Maliens aujourd'hui qui pensent que nous devons donner un nouvel élan à la démocratie malienne, que nous devons changer la gouvernance ici au Mali. Donc on se dit forcément il y a des échéances, il y a des rendez-vous qui pointent à l'horizon. C'est une belle opportunité pour essayer de changer le cours de l'histoire de notre pays. Donc bien évidemment, on va saisir ces opportunités pour essayer d'influencer et d'influer sur l'avenir de notre pays.
Moussa Cinco sera-t-il candidat en 2018?
Le plus important pour le moment, c'est de nous assurer qu'au mois de septembre de l'année prochaine, que nous aurons une autre façon de gouverner notre pays. C'est-à-dire que nous allons mobiliser tous les Maliens qui croient que nous pouvons faire mieux que ce qui se fait actuellement. et nous allons nous donner, par le jeu démocratique, les élections, la chance d'amener notre équipe plus performante pour gérer les affaires de l'État.
Ça veut dire que vous ne faites plus confiance au président Ibeka ?
Le constat, ce n'est pas seulement moi qui le fais. Le bilan est désastreux et nous ne pouvons plus nous permettre de vivre 5 années encore avec cette gouvernance. Donc je pense qu'il serait sage, même pour l'équipe qui est aujourd'hui en place, de tirer les mêmes conséquences et de dire peut-être qu'il est temps de passer le relais à d'autres personnes.
Quel message pour la jeunesse ?
Un message de mobilisation. Je demande à la jeunesse de croire en elle-même et de croire en l'avenir de ce pays. La jeunesse représente la force vive de la nation et nous avons la chance, nous avons une jeunesse dynamique et le travail paye. Si on se mobilise et qu'on met le Mali au cœur de nos préoccupations, je suis sûr que nous allons changer positivement la vie des Maliens. Je fais appel à tous ceux qui disent aujourd'hui qu'il faut changer les choses et nous allons nous donner la main pour essayer de changer les choses.
C'était l'ancien ministre et général Moussa Cinco Koulibaly.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Zimbabwe, le nouveau gouvernement a prêté serment hier. Le principal défi de cette équipe sera la relance de l'économie en ruine. La nomination de militaires et de membres de la vieille garde de Robert Mugabe refroidit cependant les ardeurs de l'opinion publique et des investisseurs. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Harare John Stewart, directeur d'action et stratégie non violente pour le changement social.
On a été très déçus du fait que le président Mnangagwa n'est pas allé plus loin que son parti, le ZANU, pour inviter les gens à participer dans un gouvernement pour cette période de 8 ou 9 mois avant les élections éventuelles de 2018. Parce que dans sa déclaration, lors de son installation comme président, le 24 novembre, il a parlé d'une volonté d'inclure la majorité dans la restructuration nécessaire du pays. Il disait que le ZANU seul ne peut pas faire face aux défis nationaux. Mais il semble qu'en fait, ce gouvernement vient seulement d'un règlement des comptes au sein de la ZANU.
Est-ce que cette arrivée des militaires dans le gouvernement pose problème?
Il a inclus dans le gouvernement 2 militaires qui sont très impliqués dans des problèmes ultérieurs du pays. Par exemple, le ministre qui est chargé des terres et de l'agriculture, Terence Shiri, était le commandant des militaires lors des opérations de l'armée zimbabwéenne dans la région de Matabeleland dans les années 80. Il était commandant de cette opération. Il a une histoire assez néfaste dans ce sens. Et l'autre ministre des Affaires étrangères, le général Sibusiso Moyo, était dans les années 80 le secrétaire d'une compagnie militaire zimbabwéenne qui était impliquée dans les opérations diamantifères au Congo, soutien de Mobutu dans les années 97-18. Et un rapport des Nations Unies qui est sorti en 2002 avait nommé non seulement le général Moyo, qui est maintenant le ministre des Affaires étrangères, mais aussi en fait M. Mnangagwa lui-même comme responsable en fait des commerces illégaux et corrompus au Congo pendant cette époque-là. Et donc la confiance qui est clé pour le rétablissement de l'économie nationale avec des relations internationales ne semble pas être très évident. La population qui a eu la possibilité de manifester dans la rue le 18 novembre a, dans un certain sens, perdu la peur qui était généralisée avant cela. Et donc, il y a peut-être la possibilité qu'on aura des relations différentes entre le pouvoir et le peuple.
John Stewart, directeur d'action et stratégie non violente pour le changement social.
Ne manquez pas le nouveau rendez-vous de VOA Afrique, le monde au féminin, présenté par Nathalie Barge, tous les mardis et samedis à partir de 19h TU. Le monde au féminin est une émission interactive dans laquelle on aborde sans tabou toutes les questions qui concernent et préoccupent les femmes, les filles et la jeunesse. Le monde au féminin, un espace réservé à tous, un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, tous les mardis et samedis, à partir de 19h TU sur VOA Afrique.
aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.